C'est l'été sur France Culture, quand le fait divers rejoint l'universel, quand le récit singulier se conjugue à la première personne du pluriel, une histoire particulière, Christine Bernard.
Une histoire particulière. Nouveau dimanche, nouveau volet de la collection Été 2018 d'une histoire particulière et les 7 péchés capitaux. Jusqu'à 18h, c'est l'heure du récit documentaire. Une histoire va commencer, une histoire singulière, une histoire vraie. Tour à tour, monstre du chaos primitif, monstre marin, terrifiant démon, grand amiral de l'enfer, grand menteur, poisson immense. À l'origine, c'était un dragon céleste, celui qui avalait la lune et le soleil et qui provoquait les éclipses. Lorsqu'il apparaît, c'est un immense poisson de plus de 10 km de long. Entre ses nageoires repose l'axe central qui supporte la terre. Il est représenté au Moyen-Âge sous la forme d'une gueule ouverte qui avale les âmes, symbolisant aussi l'entrée des enfers. Il aurait appris 70 langues et les sorciers l'invoqueraient pour les apprendre. Il enseigne le mensonge, la duperie, la tromperie. Il préside également au déplacement, au voyage, au déménagement et à l'instabilité. Vous avez deviné ? Léviathan est son nom, l'envie est son péché. C'est Nejma Bouakra et Yvon Croisier qui nous en racontent une illustration pas très envieuse.
Le grand bornant de cette route absolument incroyable, qui va passer juste à côté du village, qui va aller vers le Bouchet. Vous connaissez cet endroit ? C'est une route en ligne droite qui part dans la vallée comme ça, et vous allez monter sur la gauche et vous allez arriver à un endroit qui s'appelle le Col des Ânes. Le Col des Ânes, c'est un endroit d'immensité où il y a très peu d'arbres. Ce sont des endroits qui sont restés terriblement sauvages. Puis alors après, effectivement, peut-être qu'il y a une partie que les sports d'hiver ont marqué un peu plus le territoire. Il y a des lotissements avec des chalets modernes, tout ça. Bon, c'est peut-être un peu plus caricatural, mais pour le reste, c'est un endroit immense, hein. C'est grand, le Grand Bornan, comme son nom l'indique d'ailleurs.
Ben, c'est un petit village qui est vraiment magnifique, aussi bien l'été que l'hiver. Et ben, aujourd'hui, vous trouvez vraiment, c'est super, quoi. Il y a la neige, donc on ne peut pas rêver mieux. La commune essaye de bien développer pas mal d'activités, aussi bien l'hiver que l'été, pour attirer un public de toute génération. Et c'est vrai qu'au niveau des chalets, il y a des chalets anciens comme celui-là, quoi, qui, je ne sais pas quel âge il peut avoir, mais qui sont très anciens. Et après, il y a des jeunes du pays et des estivants aussi qui construisent sur le Grand Bornan, parce que ils veulent soit rester dans leur pays, dans leur petit village, ou soit ils l'ont découvert et ils ont envie d'avoir un petit pied-à-terre ici.
Il y a toutes sortes de couleurs, de dimensions, d'atmosphères, et il y a un moment qui s'appelle l'intersaison, on va dire, où effectivement il fait plutôt froid et gris, mais si on est en altitude, en réalité, c'est un immense spectacle, c'est-à-dire que la nature est extrêmement vive et ça reste toujours très impressionnant. Tout prend des proportions inouïes, quoi.
Le Grand Bornan a une réputation macabre qui nous colle à la peau depuis 15 ans, non ?
Oui, avec la catastrophe, c'est ça ? Oui, c'est vrai que il y a des fois la nature, on sait que quand elle a envie de reprendre ses droits, elle les reprend. Donc cette année-là, en 87, elle a décidé d'être pas gentille avec le Grand Bornan. C'est vrai que ça.
Qu'est-ce qui s'est passé en 87 ?
Il y a eu des gros orages et après ça a débordé dans le village et voilà, il y a eu des gros dégâts, il y a des gens qui ont perdu la vie et voilà, ça c'est ce qu'on souhaite à personne.
Vous ? L'affaire Flactif, vous en souvenez pas, c'était il y a 15 ans.
Si, l'affaire Flactif, on s'en souvient aussi. C'est vrai que ça a été pareil, ça n'a pas été quelque chose de facile à vivre pour tous les Bornandins, parce que c'est une famille complète, le couple avec ses trois enfants qui ont disparu. On ne savait pas où ils étaient, après on les a retrouvés. Il y a eu des enquêtes difficiles sur le Grand Bornan, tout le monde était interviewé, tout le monde se regardait. Et après on a su que toute la famille était décédée, et pareil, c'est des choses qu'on souhaite à personne.
L'envie, l'affaire Flactif. Premier épisode, des chalets, en veux-tu, en voilà. Nejma Bouakra, Yvon Croisier.
Ça.
montagne, c'est un endroit de lenteur. Tout est régi par la pente. Et on ne peut pas aller plus vite que sa propre force physique. Et c'est intéressant à observer. Les gens qui marchent vraiment, je veux dire les paysans, les gens qui vont en alpage, tout ça marche très lentement. C'est un monde de lenteur. Les choses se font lentement, lentement. Et dans ces vallées, il y a une sorte d'ultra-rapidité. Tout d'un coup, tout s'est bâti. Et puis ces stations de sport d'hiver, toute cette mécanique... et donc au service encore une fois de la rapidité, du rythme. Le ski c'est particulier, c'est un sport qui a eu un essor incroyable dans ces années-là. C'est le sport moderne par définition.
Philippe Paulet-Villard, auteur.
La grande différence d'une vallée à l'autre, c'est l'immobilier qui a pris un essor à un moment tout à fait fulgurant et qui a, dans beaucoup de cas, complètement dévasté certains endroits. Pas forcément d'ailleurs le Grand Bornand. Le Grand Bornand, je crois, est une vallée qui est plutôt préservée. Si on compare à la Clusaz, par exemple, là, c'était comme un champignon. Ça a poussé très peu de temps. Et c'est le cas d'énormément de stations. Les pires étant ces stations qui se sont construites de A à Z, Tignes, des endroits comme ça, qui sont sortis de terre littéralement. Je pense que dans l'affaire Flactif, ce sont pas tant des gens de l'endroit que des gens qui sont arrivés avec un grand rêve de faire quelque chose ici. Ils sont arrivés avec un rêve fulgurant de participer à ce truc, à cet engouement, de faire partie de ce paysage, de ce monde touristique, tout ça. Mais je crois que c'est plutôt ça l'histoire des Flactifs, non ?
Alors, tout de suite, ce qui interpelle les gens, c'est leur train de vie, c'est leur manière ostentatoire de montrer qu'ils ont de l'argent.
Patrick Alain Bertoni, journaliste.
Je ne dis pas qu'ils en avaient, mais en tout cas de le montrer. Donc ici, les gens ne sont pas très habitués. Vous savez, en Savoie, c'est un pays quand même à l'origine de montagnards. Je ne dis pas qu'ils sont renfermés sur eux-mêmes, mais en tout cas, ils ne manifestent guère leur signe extérieur de richesse, pour autant qu'ils en aient. Ils me font penser, toute proportion gardée, à ces grands bourgeois lyonnais qui vivent derrière leur mur, et où il est particulièrement malsain de montrer qu'on en a sous le pied, quoi, comme on dit ici. Donc, les flaques par contraste, sont effectivement apparus très vite comme des gens un peu étranges et chez certains montagnards dans cette région du Grand Bornand, ce massif des Bornes, effectivement suscitant de la méfiance, de la curiosité, mais très vite de la méfiance. Quoi. D'où tient-il cet argent? D'où provient-il? Que vient-il faire ici? Certains promoteurs immobiliers l'accusent même de casser le marché, de casser les prix du marché à la hausse. Donc ça ne plaît pas trop aux gens d'ici, si vous voulez, à la fois, non pas d'en avoir beaucoup, parce que certains en avaient sans doute plus que lui, en revanche, c'est de le montrer, de s'en revendiquer, et puis de rouler carrosse, de rouler grosse voiture, de rouler vite, d'une manière ostentatoire, quoi. Ça, ce n'est pas du tout le caractère des gens d'ici.
Voilà, c'était une famille qui était là depuis quelques années, donc on les connaissait physiquement, on avait discuté quelques fois avec eux, et voilà, c'était des gens comme tout le monde. Je veux dire, c'est vrai que c'était des gens qui étaient arrivés sur Grand Bornand, qui avaient construit leur chalet, qui n'étaient pas natifs pure souche du Grand Bornand, mais je veux dire, c'était des gens qui avaient droit d'être au Grand Bornand comme tout le monde.
C'était aussi la promotion immobilière, c'était aussi l'époque de l'or blanc. C'est pour ça aussi qu'on venait construire, non, au Grand Bornand?
Oui, tout à fait. Je pense que M. Flactif avait des ambitions dans les arts à vie. Je sais qu'il avait des projets immobiliers. Après, je veux dire, comme tout le monde, on a droit d'avoir des projets et d'avoir des rêves qu'on a envie qu'ils se réalisent.
Alors que ce soit des gens venus du Nord, ça n'a pas vraiment marqué l'opinion, parce qu'ici on est habitué depuis que le Nord est sinistré économiquement, à la fois au niveau des chantiers navals, des mines, à recevoir des gens du Nord, des ch'tis comme ils s'appellent eux-mêmes. Donc c'est des gens qui arrivent ici en Savoie, surtout en Savoie du Nord, ce qu'on appelle le département de la Haute-Savoie, parce qu'il y a encore du travail, notamment dans le décolletage, c'est-à-dire la transformation des métaux, auparavant l'horlogerie, avant même d'ailleurs que le ski et les sports d'hiver en fassent lui apporte un supplément de richesse.
Mais ces gens du Nord, ils sont attirés par l'or blanc. Ils viennent en espérant peut-être trouver ici un Eldorado, la richesse.
Alors, la victime, Xavier Flactif, c'est évident, puisqu'il faisait déjà dans la promotion immobilière dans le Pas-de-Calais. Il est venu ici, effectivement, pour faire dans de la promotion un petit peu plus haut de gamme, notamment dans des chalets, et surtout dans ce projet qui ne verra jamais le jour au col de la Croix-Frie, sur la commune de Manigaud, c'est-à-dire près de la Clusaz, où il y avait 150 logements de mémoire, 1000 mètres carrés de commerce. Des panneaux de promotion avaient déjà été posés. Xavier Flactif avait même ouvert un chalet de vente, hein. Dans un premier temps, les élus qui cherchent toujours à fixer les gens de la montagne ont été enthousiastes. Et puis dans un deuxième temps, parce que les garanties financières étaient insuffisantes, ils ont commencé à se méfier. Donc tout est tombé à l'eau. Et la direction départementale de l'équipement, son service juridique, avait même saisi le parquet d'Annecy.
Mais comment peut-il monter ce genre de projet, Monsieur Flactif ?
Monsieur Flactif, c'est un beau parleur, ce qui pour les gens d'ici est déjà un grand défaut. Mais d'un autre côté, si vous voulez, les gens d'ici ne sont pas non plus des saints. Quand il est arrivé avec les poches cousues d'or, eux-mêmes se sont, en tout cas certains d'entre eux, se sont laissés séduire, parce que bon, il vaut toujours mieux vendre un terrain une fois et demi, voire deux fois le prix qui était proposé auparavant, plutôt que de ne pas le vendre. Mais ces appuis se sont très vite dérobés. Moi, je connais des artisans qui, dans la construction de ces chalets au Grand Bornand, en Chinaillon, refusaient catégoriquement de travailler pour lui parce qu'ils étaient payés avec retard, voire pas du tout. Donc, très vite, son étoile a pâli. En fait, une partie des gens l'adoraient et puis une partie des gens qui d'abord s'en méfiaient l'ont ensuite détesté.
Je pense que le Grand Bornand a quand même un certain charme, mais je pense qu'on tombe très très vite amoureux du Grand Bornand. Donc c'est vrai qu'après le rêve, c'est qu'on aime bien voir un pied-à-terre pour venir aussi bien l'été que l'automne quand il y a moins de monde, que l'hiver pour faire plein d'activités sportives. Quand vous regardez bien, aucun chalet est identique. Quoi. Ils ont tous leurs petits caches particuliers, aussi bien au niveau des façades, que des balcons, chacun peut quand même créer son propre chalet. Et ça, c'est chouette.
Et vous savez où se trouve ce chalet, le chalet de Laurencière ?
Oui, le chalet de M. Flactif, oui, il est sur la route quand on monte au Chinaillon. C'est un gros chalet et il y a des habitations à côté, on peut y accéder en voiture. Non, c'est un beau chalet. Moi, j'y suis rentrée une fois, je veux dire, voilà, c'était un chalet qui était bien agencé, qui était très joli, on se sentait bien. Là, moi, je suis juste rentrée une fois et voilà, c'était un beau chalet.
Philippe Paulet-Villard.
Oui, les chalets, donc, les chalets, ce sont des maisons tout à fait étonnantes parce que ce sont des maisons qui ont été construites en fonction d'un territoire, en fonction d'une difficulté. Qui est celle de la pente, encore une fois, des intempéries. Quand on se promène dans ces chalets, on retrouve des pièces de bois très anciennes. Il y a quelque chose de très archaïque, d'un peu mystérieux même parfois. Hein. Ce sont des maisons qui sont terriblement bien conçues pour cette vie, encore une fois, qui repose sur l'économie, sur le froid, et qui sont encore debout. Depuis des siècles, et on trouve des baraques. Bon, moi, je suis toujours très impressionné quand on arrive dans les maisons par les graphismes qui sont au-dessus des portes. Il y a beaucoup de graphismes superstitieux, de protection, de choses comme ça. Ce sont des maisons, pour moi, ce sont des temples, hein, ce sont des sortes de mausolées. Il y a quelque chose d'un peu religieux pour moi, hein, dans ces édifices.
Vous comprenez pourquoi, justement, des gens qui n'auraient pas ce lien si intime au chalet désirent le chalet comme la cabane au fond des bois. Ils sentent ce magnétisme du chalet ?
Voilà, je vais être très net avec vous. Je vous parle des chalets anciens, mais je pense que les gens dont vous me parlez, ce n'est pas ça dont ils rêvent.
12 avril 2003.
Un appel à témoins vient d'être lancé par les gendarmes de Haute-Savoie pour tenter de retrouver un couple et ses trois enfants âgés de 7 à 11 ans. Cela fait plus d'une semaine maintenant que la famille installée au Grand Bornand n'a plus donné signe de vie. Les recherches en hélicoptère ou grâce à des équipes de plongeurs n'ont rien donné. Alors départ volontaire ou non, les enquêteurs n'écartent pour l'instant aucune hypothèse et se penchent sur la profession du père. Denis Robert Charrero est procureur de la République Annecy.
Ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que c'est une famille qui disparaît. Un couple, lui a 40 ans, trois enfants âgés de 10, 9 et 7 ans. On a des disparitions régulièrement. mais d'une personne seule. De cinq à la fois, c'est tout à fait exceptionnel. Ce monsieur était promoteur immobilier. Son métier était de construire des chalets et ensuite de les revendre. Il habitait un des chalets qui avait été construit récemment.
Le chalet savoyard est une maison qui est toute en économie. C'est de l'économie. Ce sont des pièces minuscules, des toutes petites fenêtres pour pas que le froid rentre. Ce sont des maisons assez obscures. Et les gens dont vous me parlez, on va dire l'essor de l'immobilier moderne, c'est un désir d'autre chose. C'est la maison californienne, c'est le désordre mental où on dit on veut être à la fois à la montagne, mais on veut avoir une baie vitrée, puis regarder la montagne comme sur un grand écran de télé, enfin. Et le confort, les jacuzzis, je sais pas quoi, enfin, toutes sortes de conneries. Je pense que les authentiques maisons savoyardes, quand vous rentrez dans une maison savoyarde, c'est une drôle d'impression, hein. C'est un monde, encore une fois, religieux, je peux pas mieux dire. Voilà, c'est très respectueux du temps qui passe, de l'autre, de la valeur des choses et du temps investi dans quelque chose. Ces maisons demandaient beaucoup de patience. Aujourd'hui, on construit, je crois, pour l'avoir vu, un chalet de façon extrêmement rapide.
21 avril 2003.
Rapide.
On est toujours sans nouvelles ce soir, 9 jours plus tard, de cette famille du Grand Bornand en Haute-Savoie, mystérieusement disparue depuis le 12 avril. Les techniciens de la gendarmerie font état de quelques traces relevées ce week-end dans le chalet de la famille. Il s'agirait d'infimes traces de sang selon le procureur de la République d'Annecy, Robert-Denis Charrero, interrogé par Véronique Savieuc de France Bleu Pays de Savoie.
C'est un chalet d'une superficie très importante. On a l'impression que ce chalet était habité et que les gens viennent de partir. On trouve le frigidaire qui est plein, des marmites où la cuisine a été prête pour le repas qui doit suivre. Ce qui est intéressant, c'est que les spécialistes de l'IRCGN ont pu, semble-t-il, constater des taches qui pourraient être suspectes, notamment sur le sol. Alors ces taches, il pourrait s'agir éventuellement de taches de sang. Il est aujourd'hui impossible de dire s'il s'agit effectivement de taches de sang, et s'il s'agit de taches de sang, si c'est du sang humain ou du sang animal, par exemple. Pour l'instant, je dirais qu'il s'agit de traces suspectes, de traces brunes, de petites dimensions.
Ce qui est certain, c'est que beaucoup de gens vivent à la fois de l'agriculture, de l'élevage et des stations. L'hiver, ils vont travailler en station, ils vont s'occuper de montées mécaniques ou de dameuses. Et puis l'été, ils sont dans les alpages. Tout ça, ça continue. Ou des gens qui ont, par exemple, transformé une maison, un chalet en restaurant sur les pistes. Mais pour certains, ce sont des gens qui sont restés réellement... des paysans. Alors après, il y a peut-être, si c'est ça le sujet, il y a peut-être une troisième famille, de gens qui ont peut-être complètement investi entièrement dans les sports d'hiver et qui ne sont plus que au service de ce sport. Ça, c'est possible aussi. Ou de l'immobilier, bien sûr. Oui.
Qu'est-ce que ça a changé, justement, le fait que tout d'un coup, sa terre devienne de l'or, que tout d'un coup, ce soit un Eldorado, que le mètre carré se vende plus cher qu'à Nice?
Eh bien, ça crée ce que crée l'argent partout, c'est-à-dire, ça change un peu les mentalités. La mentalité paysanne est une mentalité qui est une mentalité de survie, hein, dans ces coins-là. L'argent est un sujet quand même assez tabou. Ben, ils ont perdu en quiétude pour certains, ça c'est sûr, hein, c'est certain.
L'enquête se poursuit dans le chalet de la famille Flactif, au Grand Bornand, cette famille disparue depuis 10 jours maintenant. Une enquête qui privilégie aujourd'hui la thèse criminelle. Les enquêteurs ont non seulement découvert des traces de sang effacées, mais également un certain nombre d'indices troublants, Jacques Prévost.
Ce soir, les enquêteurs n'écartent aucune piste, aussi continuent-ils de fouiller la maison du couple, mais aussi le passé de cette famille disparue. La maison, on le sait, a livré plusieurs indices importants, du sang sur le sol, une dent retrouvée, Et puis une douille, tous ces éléments sont aujourd'hui analysés, on en connaîtra les résultats en fin de semaine, dit-on. Mais pour l'instant, tout est pris en compte, fuite déguisée de la famille, acte crapuleux ou même dérive sectaire, tout est imaginé. Ce qui n'est pas imaginé en revanche, c'est l'histoire professionnelle du chef de famille. Et là-dessus, les enquêteurs se montrent très discrets, preuve qu'ils considèrent cette piste-là comme capitale. Il y a, dans le passé de ce promoteur immobilier, quelques actes de justice, des incendies curieux, des bruits constants et pas mal de menaces. Enfin, il y a aussi cette riche propriété du nord de la France avec piscine couverte. Le couple l'avait quitté depuis plusieurs années. Personne ne les avait revus depuis, sauf ces dernières semaines où l'homme d'affaires était réapparu à deux reprises. Pourquoi ? Autre question.
Il faut savoir que M. Flactif est un homme...
Maître Georges Rimondi, avocat.
Haut en couleur. C'est un homme d'une corpulence importante, d'une personnalité marquante. C'est quelqu'un de décidé, c'est quelqu'un qui est dans la promotion immobilière et c'est quelqu'un qui, effectivement, est un entrepreneur au sens noble du terme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se lance dans des constructions, etc. Donc ça veut dire qu'il a un profil qui est un profil de décideur. Et il est parti de la région du Nord parce que on lui aurait reproché quelques petites filouteries qui auraient quand même indisposé un certain nombre de ses clients, puisqu'il apparaît qu'il avait des pratiques un peu filoutes quand même, qui consistaient à proposer le rachat de dettes et puis de d'engager les gens à acheter de l'immobilier pour pouvoir après le louer et puis en vivre. Et puis les appartements n'étaient pas nécessairement peut-être livrés comme les clients les attendaient. Ce qui fait que quand il est arrivé ici, bah, il était un peu précédé de cette réputation de filou.
Ah, mais c'est quelqu'un qui peut... Oui, qui est affable, qui est convivial, qui réagit bien, qui a le sourire, qui est bon vendeur, je dirais, c'est ce que j'ai dit souvent. C'est un bon commercial, voilà, c'est un bon commercial. Si vous le côtoyez que quelque temps, vous lui faites confiance. Si comme nous, on le côtoie un peu plus longtemps, on s'interroge au fur et à mesure qu'on avance.
Patrick Alain Bertoni.
C'est un promoteur un peu curieux, dirons-nous. Escroc, c'est effectivement ce que des gens qui lui avaient fait confiance penseront, puisqu'ils créeront l'association DAG, Défense Association des gens usurpés et escroqués, et qu'ils entameront une procédure devant le tribunal de grande instance d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais.
Cette procédure, est-ce qu'elle a lieu ?
Cette procédure n'a pas lieu à quelques heures près, tout simplement parce que le vendredi précédent, Xavier Flactif, son épouse Graziella née Ortolano et leurs trois enfants, Grégory, Laetitia et Sarah, disparaissent comme par claquement de doigts de l'habitation qu'ils occupent justement dans la station du Chinaillon au Grand Bornand. Quand les gens ne comprennent pas ce qui se passe, on leur prête des appartenances à des sectes, à quelques loges franc-maçonnes qui les auraient aidés à s'exfiltrer pour échapper à la colère des gens du pays et à la justice.
Colère de gens du pays, des artisans, non, sont très en colère contre M. Flactif.
Effectivement, des artisans, dont un duo de peintres en bâtiment, qui un soir ont une explication quelque peu musclée avec Xavier Flactif, jusqu'à aller chez lui et à finir par lui mettre la tête dans le four de cuisine pour se faire payer. Donc, dans un premier temps, tout le monde pense que soit Xavier Flactif s'est sauvé, soit qu'il a été tué par des créanciers.
Alors, on a dit beaucoup de choses, on a dit qu'on avait trouvé...
Le vif du sujet, France Culture, printemps 2003.
Une trace de sang, et puis 3, et puis 6, et puis une dent, et puis une douille, et puis plein de choses. Moi, si on vient chez moi et qu'on fait des études d'ADN sur mon carrelage, ça va être assez comique. Je pense que on va trouver de l'ADN de souris, parce que j'ai des chats qui ramènent des souris à la maison. On va trouver mon ADN parce que je me suis coupé le pied. On va trouver plein de choses. Il y a des choses bizarres, mais... Je pense pas qu'on doive s'attarder à ça, en tout cas pour l'instant.
Je vous l'ai dit, la méfiance des gens de montagne par rapport à des gens qui arrivent et qui flambent, et qui ne sont pas des touristes, qui s'installent. Que les touristes flambent, après tout, tant mieux, ça permet de garnir les caisses. Hein. Vous savez, comme on dit, en Savoie, on jette l'argent par les fenêtres, mais du dehors vers le dedans. Donc, si Xavier Flactif n'avait fait qu'être touriste, effectivement, ça n'aurait pas déplu. Mais en plus, il fait des affaires, en plus, il tarde à payer. Mais bon, ce qui gêne un peu quand même, y compris les gens du pays, et moi j'ai discuté avec l'un d'eux, qui était un artisan électricien ayant refusé de travailler pour Xavier Flactif. Il m'avait dit, écoute, les gens d'ici, je les connais. Peut-être aurait-il tué Xavier Flactif. Peut-être aussi aurait-il tué Graziella dans un instant d'exaspération. Mais jamais, au grand jamais, il ne s'en serait pris aux enfants. Donc, si vous voulez, très vite, on se dit que, dans un accès de colère, on peut toujours imaginer le pire, mais que les gens d'ici, pour une dette artisanale, ils n'auraient quand même pas exterminé l'ensemble de la famille.
Comment on peut quitter un territoire, un couple et trois jeunes enfants ? Comment on peut aussi s'investir dans le milieu financier sans être inquiété outre mesure ? Comment est-ce qu'on peut monter des arnaques financières sans jamais vraiment être inquiété ?
Le vif du sujet, printemps 2003.
Je pense que Xavier Flactif avait quand même pas mal d'amis qui ont très bien pu l'aider à prendre la fuite, ou en tous les cas à organiser sa fuite. Je pense que ce monsieur brassait beaucoup d'argent et je pense qu'effectivement on l'a aidé. Ce type était vraiment un débrouillard de première et un embobineur de première. Et je me dis qu'il n'a pas pu disparaître comme ça, il n'a pas pu se faire découper en petits morceaux, il ne peut pas se retrouver au fond d'un ravin. Je pense plutôt au magouilleur, à la personne qui a anticipé son départ en retraite. Il le disait d'ailleurs lui-même, hein, il l'avait dit à plusieurs personnes, je ne sais pas si vous l'avez entendu là-bas, il a dit à plusieurs reprises, je fais un gros coup et je m'en vais au soleil.
17 septembre 2003, rebondissement dans l'affaire Flactif.
5 mois après la disparition de la famille Flactif, la thèse de l'assassinat est donc confirmée. 4 suspects ont été déférés au parquet aujourd'hui à Annecy, en Haute-Savoie. Ce sont 2 couples dont l'un habite au Grand Bornand, le chalet voisin du promoteur disparu. C'est l'ADN retrouvé dans le chalet des Flactifs qui a parlé. L'un de ses voisins, David Otia, est passé aux aveux. Il a conduit les enquêteurs jusqu'à une forêt de 15 km du Grand Bornand. Là, les policiers ont exhumé des débris d'ossements qui doivent être encore analysés. Et le procureur l'a confirmé tout à l'heure, il y a eu préméditation dans ce meurtre.
Donc après... finir avec cette histoire. Voilà, après, c'est ça, la question, c'est...
Philippe Paulet-Villard.
Des gens viennent à un endroit, ils veulent quelque chose, ils le veulent apparemment très fortement, d'autres les jalousent. Donc on est dans un désir de possession effréné, et qui va jusqu'à ce que quelqu'un puisse tuer quelqu'un d'autre. Mais tuer quelqu'un d'autre, on ne s'improvise pas assassin. Enfin, je veux dire, on a cette énergie-là quand même, on arrive... Et je crois qu'il y avait, la possession d'une arme, il me semble. Hein, Donc on est dans un monde violent.
Comment ça a marqué les gens du coin ?
Comment ça a marqué les gens du coin ? Eh bien, il y a un point d'interrogation monumental. C'est qui a fait ça ? Qui sont là ? Alors là, il y a un fantasme, il y a plein d'histoires qui commencent à se raconter, mais parce que voilà, c'est naturel. Quand il y a un manque, les gens fantasment, racontent des trucs, mais ils ont raison de fantasmer d'ailleurs, parce qu'il est question d'argent, et donc l'argent génère parfois des comportements extrêmes. Des gens arrivent avec une énergie particulière, on va dire qui est celle de la rapidité, de l'argent, de la volonté de posséder fort et rapidement et puissamment, et puis finalement ça crée une sorte de fait divers brutal, brûlant, tapageur, et puis le silence revient, je veux dire, après ça, parce que voilà.
C'était la première partie de l'affaire Flactif, avec Maître Georges Rimondi, avocat, Philippe Paulet-Villard, auteur, Patrick Alain Bertoni, journaliste, et des extraits du vif du sujet, La vie en suspens au Grand Bornand, émission diffusée en 2003 sur France Culture. L'envie, un documentaire de Nejma Bouakra et Yvon Croisier. Let me.
peine maximale, David Otia, les yeux sur ses souliers, a encaissé sans broncher. À ses côtés, dans le box, Stéphane Aremza n'a pu retenir ses larmes, lui, lorsqu'il a entendu 15 ans. Complice, oui, lui a lancé l'avocat général, même si celui-là n'a pas de sang sur les mains. Et s'il perd beaucoup, ne vous y trompez pas, c'est d'abord sur lui-même. Le magistrat aura une phrase lapidaire sur chacun. Isabelle Aremza, cupide, crapuleuse, dénuée d'un sens des valeurs, 7 ans. Alexandra Lefebvre, la compagne d'Otia, femme battue, femme soumise, c'est ce qu'elle veut nous faire croire. En réalité, c'est une manipulatrice qui souffle sur les braises. Elle avait 1000 moyens d'empêcher cette boucherie. Vous aviez tout, madame, pour savoir que l'exécuteur était dans les basses œuvres. 10 ans. Otia enfin, et le ministère public cite alors Dostoïevski, « La mort injuste d'un enfant fait douter de l'existence de Dieu. » Et il enchaîne, « L'extermination de 3 petits-enfants peut-elle faire croire à l'existence du diable ?» Mais non, Otia n'est qu'un homme, ordinaire, animé par la haine, qui comme une lame de fond a fait craquer le fragile vernis de l'éducation et l'a emmené aux portes de l'enfer. À perpétuité donc.
L'envie. L'affaire Flactif. Second épisode, de l'envie au meurtre. Nejma Bouakra, Yvon Croisier.
Étrange affaire.
Affaire marquante.
Maître Georges Rimondi.
Marquante parce que, évidemment, d'abord, le caractère abominable de voir disparaître une maman, un papa et les 3 enfants, c'est quelque chose d'humainement insupportable. Marquante également parce que la motivation si futile a conduit à la commission d'un drame absolu, et puis marquante aussi parce que pour les professionnels que nous sommes, nous les policiers, les avocats, les juges, c'est une affaire qui techniquement a été particulièrement bien menée grâce aux investigations scientifiques. Et il est vrai que certaines investigations ont même été parmi les premières à être utilisées sur le territoire français, parce que le Blue Star ou le Luminol, vous savez qu'ils sont ces pratiques qui permettent de révéler l'existence de traces de sang, mais même lorsque celles-ci ont été javelisées, et mieux encore, on a pu en extraire l'ADN alors même que ces traces de sang avaient été javelisées. C'est d'ailleurs comme ça que sur les lieux, on a retrouvé 6 ADN, 5 qui appartenaient aux membres de la famille disparue, et le 6e ADN, on se doutait effectivement qu'il appartenait à Monsieur Otia, et que c'est comme ça qu'on a pu remonter à lui.
Patrick Alain Bertoni. L'autre homme de cette affaire, c'est David Otia.
Alors, David Otia, d'abord, c'est un ancien athlète de 800 mètres. Donc, c'est un ancien athlète qui est charpenté, qui est blond, qui a le cheveu court, les épaules carrées. Il ressemble à tous ces gars du Nord qui viennent ici parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a la Suisse voisine, avec ses salaires particulièrement intéressants compte tenu du cours du franc suisse par rapport à l'euro. David Otia est venu ici aussi parce que lorsqu'il était enfant, il y venait en colonie de vacances. Alors, les municipalités du Nord ont souvent eu des centres de vacances ici, ou les comités d'entreprise, etc., ou les centres communaux d'action sociale. Il est venu ici, pour effectivement trouver meilleure fortune, en ayant des souvenirs lorsqu'il était enfant de vacances.
Revenons sur la scène du crime.
Alors, la scène du crime est un des chalets construits par Xavier Flactif, qui est donc habité par Xavier Flactif et sa famille. Sa femme et la mère de leurs 3 enfants. Donc ce chalet se situe un peu à l'aval, à l'entrée de la station du Chinaillon, en face des premières pistes de ski. C'est un chalet très cossu, c'est un des gros chalets du secteur, effectivement. C'est loin de la cabane au Canada.
C'est-à-dire que je suis allé sur les lieux du drame, et j'ai découvert le vrai chalet, et qui était au-delà même de ce que j'imaginais. Il était presque un peu trop par rapport à ce que j'imaginais moi. Presque un peu arrogant ou insolent. Pas forcément de luxe, mais de presque luxe, j'ai envie de dire.
Éric Guirado, dans Possession, votre film, le chalet, on le voit, il est presque en surplomb. Il est très imposant.
C'est-à-dire que quand on allait au chalet des Flactifs, on arrive par une petite route, on se retrouvait fatalement au pied du chalet, qui était forcément dominant, j'ai envie de dire, et évidemment, donc, du coup, on se sentait un peu dominé.
J'en avais ras-le-bol des gens, de la pluie, tout ça. ça. Puis j'ai vu un reportage à la télé sur les chalets à la montagne. Et d'un coup, ça m'a fait envie. Moi, je suis comme votre dame.
Attends, excusez-moi. Ouais, Jacques. Ouais, comment on va? Attends, quitte pas. On arrive. Je suis passé tout à l'heure, je vous ai mis l'électricité, le chauffage, tout ça, vous allez bien.
Merci.
Salut ma puce.
Au revoir.
Bah, elle voulait pas nous montrer je sais pas quoi, là?
C'est comme ça le chalet que tu voulais, maman?
C'est là?
Ouais, c'est pas mal.
Pas mal, putain.
Excusez-moi, mais ouais, vous avez vraiment besoin de cette voiture?
Non.
On est comme des rois ici.
Déjà.
Tu verras la taille du chalet, il y a de la place pour vous. Hein. Qu'est-ce que vous attendez?
Et puis tu verras le chalet des propriétaires, ils ont tout quoi. Grand salon, grande cuisine.
Un grand frigo américain.
Et vu sur les pistes, la grande classe quoi. Ici on n'est pas chez les crevards, il y a du fric.
Ouais, ouais, il y a de la thune.
Ce que je trouvais intéressant, pourquoi ça a résonné chez moi cette histoire? Bon, d'abord ça se passait. Moi je suis né à Saint-Julien-en-Genevois, en Haute-Savoie.
Éric Guirado.
Donc quand cette affaire. A eu lieu en 2003, j'étais tout de suite au courant. Et quand je m'en suis vraiment approché, il y a eu des résonances pour moi avec des figures, entre guillemets, cinématographiques, notamment comme dans Macadam Cowboy, où on a un personnage qui quitte son Texas pour une vie meilleure et qui se prend la réalité dans la figure. Alors,
qu'est-ce qui leur donnait l'envie de partir?
Mais c'est vraiment le rêve, je pense que c'est vraiment le rêve. Peut-être quitter une forme de cauchemar ou d'impasse, pouvoir être près des gens heureux aussi. Dans les stations de ski, on parle pas trop ni du chômage, ni des bars de HLM, ni... Enfin voilà, c'est comme si on était dans une zone complètement différente. De la même façon que quand dans Macadam Cowboy, ce personnage s'en va à New York, il a vraiment le sentiment qu'il plane, mais complètement. Et je pense que l'expression planer convient bien. Je pense qu'ils sont arrivés, ils planaient complètement dans leur rêve, dans cette idée de ça va aller mieux. D'ailleurs, on côtoie déjà des gens bien, des gens qui ont de l'argent. Ils ont côtoyé, au départ, ils ont côtoyé des faits actifs, je pense, avec beaucoup de plaisir. Je ne crois pas que ça ait tout de suite été de l'envie. Je veux croire que ça n'a pas tout de suite été négatif.
Monsieur Flactif, il est promoteur. La station du Grand Bornand est une station qui se développe. Il y a évidemment pour un promoteur de tous les espoirs de gains qui sont permis par la construction et l'édification de chalets, de résidences secondaires, etc. C'est un personnage, monsieur Flactif, c'est un homme haut en couleur, c'est un homme qui a le profil de sa fonction, je dirais. C'est quelqu'un qui est déterminé, et qui réalise, d'ailleurs, je crois qu'il a construit, si ma mémoire est bonne, en 4 ans, 15 chalets. Donc c'est vous dire qu'il était effectivement extrêmement actif. Concernant Monsieur Otia, ce sont des gens plus effacés, plus modestes à tout point de vue. Ils complètent un peu leurs revenus par des petites activités de petites rapines sans grande envergure. Bref, c'est pas le même profil. C'est pas le même profil. Mais il va se créer quand même une relation entre la famille Flactif et Monsieur Otia. On imagine évidemment qui a de l'influence sur l'autre. Lorsque Flactif sollicite Otiat, eh bien, c'est pour que sa femme vienne faire du ménage chez lui, etc., etc. Cette relation est telle qu'ils ne seront jamais d'égal à égal. Jamais. Et lorsque l'un, avec peut-être un regard un peu méprisant, il faut bien le dire, dit à l'autre, eh bien, écoute, demain tu dois quitter le chalet parce que j'ai un locataire, l'autre le vit extrêmement mal. Son épouse le vit extrêmement mal. Donc, dans un premier temps, il va y avoir un peu de convoitise, mais cette convoitise va très vite devenir de la jalousie, c'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de rivalité entre eux. Et c'est cette rivalité qui va faire naître cette haine obsessionnelle qui va conduire après à la commission de certains faits. Dans un premier temps, on sait, parce qu'ils ont été condamnés, jugés, maintenant... C'est pas un secret qu'ils avaient mis le feu à un chalet appartenant au Flactif.
Putain, résidence luxe et prestige, il se fait pas chier.
Enculé. Viens, on va lui, on fout du prestige, tu vas voir.
Va là.
Fais gaffe, t'en veux pas se faire les coups. Parce qu'il y en a marre que vous nous baladez, il faut nous respecter un petit peu là.
Mais on balade personne, hein. On fait ce qu'on peut, je vous l'ai déjà dit ce matin.
Ah bah, il faut arrêter de nous prendre pour des guignols, parce que Marlène, elle pète un câble.
Patrick!
Alors moi je veux le chalet qu'elle voulait depuis le départ, puis c'est tout.
Bruno, on vous prend pas pour un guignol, on vous respecte. Si on vous respectait pas, on vous aurait pas eu dans cet hôtel, croyez-moi.
Bruno, et tu veux que je te dise? Je serai le premier à être contente quand vous l'aurez votre chalet. Dis-lui à Marlène.
Allez, santé.
Mais t'inquiète pas, fais-moi confiance. Ça met un petit peu plus de temps, mais ça va aller.
Alors ils se disputent effectivement parce que David Othia et sa famille passent de chalet en chalet au fur et à mesure que des locations de vacances approchent et qu'ils doivent libérer les lieux pour permettre à des touristes d'emménager pour les périodes de vacances.
Patrick Alain Bertoni, journaliste.
Donc petit à petit on en arrive à des mots. C'est le combat de deux grands cerfs hein, qui deviennent un peu rivaux. Quelqu'un comme David Othia a pu avoir la faiblesse de croire qu'en brûlant les étapes, il pourrait accélérer le processus l'amenant à habiter un chalet et un tel chalet.
Il y a un couple, ce sont les Flactifs. Eux, ils sont, et les autres, ils rêvent d'être. Et ça fait vraiment toute la différence. Donc, ils sont, ces deux couples, un peu en miroir, c'est vrai, ils ont beaucoup de points communs. Mais malgré tout, l'immense différence, elle tient à ça. Il y en a qui sont, il y en a qui rêvent d'être. Il y en a qui sont des propriétaires, d'autres qui rêvent d'être propriétaires. Il y en a qui sont dans la réussite, et les autres qui rêvent d'être dans la réussite.
Alors c'est un effet miroir, mais entre un miroir doré à l'or fin, Xavier Flactif, et puis un miroir de poche, David Othia. Et le miroir de poche, eh bien, veut à son tour grandir et être doré à l'or fin. Oui, c'est quelque part un effet miroir, mais avec un miroir un petit peu plus grand d'un côté que de l'autre. Lorsque le miroir se brise, lorsque le charme est rompu, on passe dans une phase de grande amertume, et de l'amertume, on en arrive vite à la rancœur, et de la rancœur, on en passe à la haine qui peut motiver un pareil geste.
Pour moi, l'immense problématique est venue à partir du moment où l'objet de leur envie en général et de leur jalousie est devenu complètement immatériel, c'est-à-dire l'affection, l'amour et le bonheur. En tout cas, moi j'ai traduit ça dans le film, et c'est ma vision. À partir du moment où ils se sont rendus compte, peut-être inconsciemment, que ils pouvaient essayer de tout avoir, mais il y a un truc qu'ils n'auraient jamais et qui pourrait jamais leur prendre au Flactif, ben c'était l'amour, la chaleur de leur foyer, la bonne atmosphère de leur foyer, cette atmosphère rassurante, et puis des enfants heureux, etc. Et là, je pense que ça a marqué un tournant, sourd, hein, tout à fait silencieux, mais quelque chose de très fort en eux, qui a peut-être été un des éléments déclencheurs de cette rage dont la source est voilà, la frustration, l'impuissance, la jalousie, la convoitise, l'envie, etc.
Puis il fallait voir, pour laver le linge, les manières. Fallait mettre la lingerie de madame dans un petit sac spécial pour pas abîmer la dentelle.
Non mais n'importe quoi.
Une vraie princesse, quoi.
De toute façon, t'es trop gentille, ils en ont profité. Puis c'est toujours pareil. Au final, ils savent bien qu'on va fermer notre gueule.
Hé, hey, tu sais ce qu'il va offrir à elle?
Non.
Un bateau. Là, dans le garage, il y a un bateau qui prend la poussière. Non mais je te jure, à la montagne, un bateau.
Non mais n'importe quoi. Ils sont pas comme nous, ces gens-là. Et tu sais, ça se trouve, l'argent. C'est de l'argent malhonnête.
Ouais.
Tous les trucs qu'on voit à la télé, là, les millions, puis au final, c'est même pas eux et tout ça, là. C'est des magouilles, tout ça.
Ça rejoint aussi la question du fantasme. Ça rejoint aussi la question du rêve dont on parlait. Le fantasme va très vite. Quand les Flactifs ont disparu, je pense qu'à partir de quelques éléments de la réalité, c'est-à-dire que peut-être qu'en effet qu'ils étaient endettés, peut-être qu'en effet il y avait quelques artisans qui commençaient à dire qu'ils payaient mal, etc. s'est tissé très vite autour d'eux une réputation, et puis très vite une image forte. On a projeté, je pense, une image dont la source est vraiment directement pour moi la jalousie et la convoitise. Et les Othia n'ont pas été tout à fait innocents dans cette opinion-là qui s'est répandue très vite. Puisque Alexandra disait elle-même, dans une émission 7 à 8, elle disait elle-même, oh ben, si ça se trouve, là ils se sont tirés et puis ils sont au chaud sur une île. C'est-à-dire qu'elle-même répond à une question d'un journaliste et sans le savoir, de façon inconsciente, elle frappe tout de suite en direction de l'imagerie populaire la plus moche, j'ai envie de dire.
Déjà, il prend les gens pour des esclaves.
Qu'est-ce que vous faisiez, vous?
Je faisais le ménage chez elle. Donc, vous voyez, quand vous êtes en train de laver, hein, que lui, il arrive, qu'il repiétine tout, hein, que c'est pas sec, qu'il y a plein de traces, que vous êtes obligé de recommencer 3 fois parce qu'il en a rien à foutre. Venez chercher des papiers sur sa table, il repartait sur le balcon, et vas-y, piétinez tout. Hein.
J'étais très frappé par le fait que dans cette émission 7 à 8, il y avait une sorte de violence des propos d'Alexandra, la femme de David Othia, alors même qu'on était à l'époque à peine 15 jours ou 3 semaines après la disparition, c'est-à-dire dans les faits 15 jours ou 3 semaines après qu'il les ait tués. Alors forcément, il fallait bien qu'ils se construisent des alibis, ou... mais quand même, il y a eu une telle violence que je pense que je connais plus bien... J'avais lu beaucoup de choses sur les gendarmes et les inspecteurs, etc., qui tournaient autour de l'affaire. Mais il est très probable que ça commençait déjà à leur mettre la puce à l'oreille. C'est-à-dire que des gens comme ça, qui ont côtoyé, qui avaient côtoyé les Flactifs, puissent tout d'un coup avoir des propos aussi violents à l'endroit des Flactifs, c'était quand même étrange. C'était quand même étrange.
Il a de la chance qu'il n'ait jamais tombé sur un Corse, parce qu'il serait dans la mer avec une pierre au cou, là.
Ce qui est particulièrement cruel, c'est que le chalet voisin de celui des Flactifs, dans lequel s'expriment devant les caméras de TF1 David Otia et Alexandra Lefebvre, c'est le chalet dont ils se sont rendus propriétaires en bidouillant sur l'ordinateur un faux compromis de vente engageant les Flactifs comme devant prochainement leur vendre et même leur ayant déjà vendu ce chalet.
Effacement et réappropriation.
Oui, alors effectivement, effacement et réappropriation, et David Otia dira qu'il s'était inspiré d'un fait divers vu à la télé, où un restaurateur dans le sud-ouest de la France, de mémoire, avait fait disparaître toute une famille et puis s'était approprié ses biens. Donc cette affaire, dira-t-il aux enquêteurs, l'avait inspiré.
C'est un peu comme dans la guerre du feu, c'est-à-dire que on a besoin du feu de l'autre, on veut le feu de l'autre, et comment faire pour le prendre? Et finalement, ça finit par la violence. C'est-à-dire que puisque c'est pas négociable, puisqu'on n'arrive pas à prendre ce feu, eh bien ça va se faire par la violence. Or, dans le couple Otia, je pense que elle portait la plus grande part de désir, d'envie de prendre le feu de cette famille, et le feu, c'est-à-dire le bonheur, la joie, l'harmonie du couple. Elle est là, elle est femme de ménage, donc elle est aux premières loges. Elle voit comment il y a de la délicatesse dans ce couple, comment il y a de l'amour, comment il y a du désir. Elle les entend faire l'amour une fois, comme c'est un moment aussi très fort. Elle regarde ce foyer avec tellement d'envie. Et au lieu d'en être inspirée, finalement, elle en devient enragée quelque part. Le feu qui la ronge à elle, c'est le feu de la jalousie et de la convoitise.
Son compagnon est son bras armé ?
Moi, je crois que oui. Je crois que oui. Je crois que, comme dans Lady Macbeth, à un moment donné, elle ne supporte pas que son mari ne soit pas capable de réaliser ses envies à elle, ses fantasmes à elle. Elle n'accepte pas qu'il ne soit pas à la hauteur. Fais ce qu'il faut pour que moi, je sois heureuse. Sauve-moi, guéris-moi de ma frustration.
Maître Georges Rimondi.
On sait d'abord quelle a été la motivation de David Otiat, cette espèce de conjugaison entre la frustration et puis cette haine obsessionnelle qu'il nourrissait. Il avait d'ailleurs après écrit à son père en disant que Flactif, il l'avait toute la journée dans la tête. Il a pris la décision et comme il l'a dit à un moment, moi quand je décide quelque chose, je le fais.
Pour moi, ça a beaucoup à voir avec la maturité, ou l'immaturité d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on avait aussi d'un côté une famille d'adultes, et de l'autre côté une famille d'enfants. Un adulte, c'est quelqu'un qui sait gérer ses frustrations, même l'expression de sa frustration et de son envie, et de ses colères, etc. Quand on a des enfants, on voit très bien, et on sait très bien que les enfants ont un vrai problème pour gérer leurs émotions, leurs frustrations, etc. Mais quand j'ai écrit le film, j'avais vraiment le sentiment que j'écrivais souvent des dialogues ou des scènes avec deux enfants. Et en tout cas, vis-à-vis de la possession de ce que les autres possèdent et que lui n'a pas, on est vraiment, effectivement, je trouve, dans une figure de l'enfance. Il illustre tout à fait ce côté « Ah, je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Je pense que c'est exprimé à ce moment-là leur inconscient le plus vil, quoi, le plus terrible, c'est-à-dire... On y va, on se sert, on va enfin se servir. Nous aussi, on a droit au banquet. Ça leur a posé aucun problème de toucher à leur objet intime.
Et j'irais même jusqu'à dire, cette haine, elle a été déculpabilisante. Quand je parle de cette haine déculpabilisante, c'est qu'on sait qu'il y a eu des objets qui avaient été dérobés dans le chalet Flactif, après les faits, un téléphone d'enfant, un parfum de femme, enfin des objets comme ça, et que ces objets, ils ont été ramenés à la maison, on a enlevé la puce du téléphone de la petite fille, et puis on a mis la puce des enfants Lefebvre, et puis on a utilisé le téléphone. Le parfum qui avait été utilisé par Madame Flactif et s'est retrouvé utilisé par... Voilà. Donc, si vous voulez, quand je dis déculpabilisante, je veux dire qu'ils étaient arrivés, en tout cas Monsieur Othia, à un stade tel que incontestablement il y avait une espèce de légitimation dans la folie de l'acte.
Alors en fait, David Othia est confondu par les observations, par les écoutes, par il est interpellé au petit matin sur le parking d'un supermarché. Il est conduit au groupement départemental de gendarmerie également à Annecy. Et au bout d'une petite heure, en fait, David Othia, pour libérer sa conscience, leur dit « Je vais vous conduire dans une forêt dans laquelle, après les avoir tués, j'ai brûlé les Flactifs, c'est-à-dire le père, la mère et les trois enfants. » Donc, on sait dès le départ, puis les ADN démontrent que toute la famille Flactif a été assaignée dans le chalet. Donc, on va vers la piste d'un crime de sang.
Maître Rimondi, quand vous arrivez sur ce dossier, il y a une scène de reconstitution qui est très importante. Est-ce que vous pourriez nous la raconter ?
Alors la scène de reconstitution, elle est importante et je dirais elle est surtout également impressionnante. Parce que, évidemment, que lorsque la famille Flactif a disparu, le chalet a été mis sous scellé et personne n'a pu y accéder. Nous sommes donc rentrés dans un chalet dans lequel il y avait encore tous les éléments de vie de la famille Flactif. Il y avait les petits dessins des enfants qui étaient punaisés au mur, il y avait là les bottes des enfants qui avaient été un peu laissées négligemment, etc. C'est dire naturellement que c'était un chalet dans lequel il y avait eu une vie et on revenait dans le chalet où cette vie avait été enlevée dans les conditions abominables que l'on connaît aujourd'hui, et il est bien évident que cela, c'était impressionnant. Étant naturellement précisé que Monsieur Othia est resté extrêmement discret sur la façon dont les choses ont pu se passer, le fait par exemple que l'on ait retrouvé une dent d'enfant plantée dans le parquet a laissé entendre que l'enfant avait sans doute été frappé violemment puisque cette dent avait été sortie de la bouche. Mais il est vrai qu'il n'a jamais donné un détail chronologique précis sur ce qui a pu se passer.
La vérité judiciaire est celle-ci. David Othia donc est allé voir la famille Flactif à son chalet du Chinaillon le vendredi 11 avril 2003. Les premiers à arriver ont été les enfants qu'il aurait tués en premier et successivement au fur et à mesure de leur arrivée. Après serait arrivée leur mère, Graziella née Ortolano, qu'il aurait à son tour tué. Et puis, in fine, serait arrivé Xavier Flactif, auquel il aurait également donné la mort. Ensuite, c'est toute cette nuit durant laquelle la vérité judiciaire veut qu'il ait chargé les cinq corps dans le 4x4 de la famille, qu'il ait fait un ménage on ne peut plus soigner dans le chalet, dont des proches diront qu'ils ne l'avaient jamais vu aussi bien rangé, parce que Xavier Flactif, passez-moi l'expression, était un peu bordélique. Puis ensuite, après avoir fait ce ménage, il se serait rendu toujours seul dans la forêt du Mont, et c'est là qu'il aurait dressé le bûcher sur lequel les cinq cadavres seront brûlés. Personnellement, et je ne suis pas le seul, j'en doute fort, c'est pas possible. Alors qu'il ait tué les gens tout seul, c'est possible. Qu'il les ait chargés dans le 4x4, pourquoi pas. Mais qu'après, il se soit livré dans la même nuit à un ménage complet du chalet pour effacer, en tout cas au premier coup d'œil, les traces de sang, et ensuite se rendre dans cette forêt du Mont, dresser le bûcher, qu'il l'ait fait tout seul, paraît complètement improbable. Mais il n'empêche que c'est la vérité judiciaire auquel la décision de la cour d'assises donnera le sceau de la véracité.
J'ai été l'avocat de M. Stéphane Aremza, qui est l'accusé numéro 2, j'ai envie de dire, celui qui était aux côtés de M. Othia. Ce sont deux personnalités extrêmement différentes, peut-être complémentaire. Monsieur Otiat est un leader, incontestablement. C'est un homme décidé. C'est un homme, j'ai presque envie de dire, viril. Monsieur Aremza est plutôt un suiveur qu'un leader. C'est celui qui sera le bon copain, toujours prêt à exécuter, y compris les basses besognes que Monsieur Otia pourra lui demander. Et ça n'est pas quelqu'un qui décide, c'est plutôt quelqu'un qui exécute. Il n'a jamais été démontré, ni même d'ailleurs évoqué, la possible participation de Monsieur Aremza au nettoyage de la maison, pas plus d'ailleurs, bien sûr, qu'à l'élimination des corps et à la crémation de ceux-ci.
Parce que, selon vos propres sources, pour dresser un bûcher avec donc 5 corps, dont 3 mineurs, combien de temps cela prend pour que les corps brûlent ?
Alors, si vous voulez, on confiera une expertise à un anthropologue du CNRS spécialisé dans la crémation des civilisations anciennes. Une reconstitution sera effectuée à l'endroit où les ossements auront été découverts. Cette reconstitution se pratiquera avec un animal qui est physiologiquement le plus proche de l'homme, c'est-à-dire le cochon. Des cochons d'une centaine de kilos seront amenés sur place pour figurer les parents et 3 d'une trentaine de kilos pour figurer les enfants. Or, après avoir suivi le scénario décrit par David Otia aux enquêteurs, se révélera complètement improbable que les 5 cadavres aient pu être carbonisés, même sur plusieurs jours, avec si peu de carburant, c'est-à-dire ce qui déclenche le feu, et ensuite si peu de comburant, c'est-à-dire ce qui l'alimente. Et l'expert du CNRS en déduira que pour faire disparaître complètement les 5 corps, il aurait fallu entre 900 kilos et une tonne de bois. Or, à cet endroit-là, vérification sera faite. Aucune coupe de forestier n'avait été pratiquée. Ni David Otia, ni Stéphane Aremza, son ami qui l'aurait aidé à finir la besogne, passez-moi l'expression, ni l'un ni l'autre n'ont pratiqué de coupe de bois. Donc, ça restera quand même un grand mystère de cette enquête. Comment ont-ils pu réaliser une telle crémation ?
Il reste une plaque aujourd'hui, à cet endroit-là.
Effectivement, il reste une plaque. En tout cas, la dernière fois que j'y suis allé, il y a fort longtemps, car ce n'est pas un endroit particulier de pèlerinage. Il reste une plaque de métal fixée à un morceau de bois.
L'envie. L'affaire Flactif, second épisode de L'envie au meurtre. Avec Éric Guirado, cinéaste, Maître Georges Rimondi, avocat, Patrick Alain Bertoni, journaliste, et des extraits du film Possession, avec un S, d'Éric Guirado. Un documentaire de Nejma Bouakra et Yvon Croisier.
Une histoire particulière, c'est fini. Cette histoire se podcast sur le site de France Culture. Elle se réécoute partout, où vous voulez, quand vous voudrez. Et toute la bibliographie qui accompagne ce documentaire est sur franceculture.fr.